on a quand même un métier qui est très affecté par la crise climatique, mais on voit qu'à l'heure actuelle, le guide arrive encore à s'adapter, en espérant que ces modalités d'adaptation perdureront dans le futur avec la dégradation des conditions.
Les habitants de la vallée de Chamonix et ceux qui y travaillent ont toujours observé les montagnes environnantes, tantôt pour les admirer, tantôt pour les surveiller. Difficile d'imaginer qu'il y a 28 000 ans, il y avait près de 2 km de glace au-dessus de la position actuelle de Chamonix. L'adaptation est donc perpétuelle. Mais l'accélération du réchauffement climatique change la donne et représente désormais un défi immense pour les professionnels de la montagne. Dans les Alpes, les températures se réchauffent deux fois plus vite qu'au niveau mondial. On attend au mieux une augmentation de 5 degrés d'ici 2100. Les glaciers, eux, ont déjà perdu 26% de leur surface en 40 ans. Derrière ces chiffres vertigineux, une réalité. Des paysages transformés, des conditions plus dangereuses et des hommes et des femmes qui continuent d'arpenter les sommets. À la compagnie, guides et accompagnateurs se dressent désormais en vigie. Ils observent, alertent et s'adaptent. Ils nous ont embarqués avec eux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Suivez le Guide.
Prochain départ pour le Mont-en-Vert dans 30 minutes.
Je suis en gare du Mont-en-Vert à Chamonix et mon guide du jour s'appelle Brad Carlson. Il est guide à la compagnie des guides de Chamonix et écologue.
Et on va monter donc au Mont-en-Vert à 1900 mètres pour découvrir un peu le panorama là-haut et visiter la mer des glaces.
Dans ce célèbre train rouge à crédence inauguré en 1910, des dizaines de touristes. La destination, la mer de glace, attire chaque année plus de 350 000 visiteurs. On y trouve une grotte artificielle et plus loin, l'école de glace, c'est-à-dire le lieu qui permet d'apprendre les gestes techniques de l'alpinisme. Elle est notamment utilisée par les pros de la compagnie des guides de Chamonix et c'est là que m'amène Brad Carlson.
Bah, bienvenue. Si tu montes en vert, c'est quand même joli, non ?
C'est incroyable.
Avec le panorama.
À la descente du train, la vue est sans conteste incroyable.
La mer des glaces, c'est un site déjà qui reste magnifique avec ce panorama de sommets emblématiques autour de nous. C'est aussi un site qui témoigne des effets du réchauffement climatique dans le massif du Mont Blanc. Depuis la fin des années 80, la mer de glace, ce glacier qui est juste en dessous, a perdu plus de 150 mètres d'épaisseur. Donc c'est vraiment un changement spectaculaire et rapide. Et en plus, qui a un fort impact sur notre pratique en tant que guide. Souvent, on fait ce qu'on appelle une école de glace, ici à la mer de glace, où on monte par le train du Mont-en-Vert, on prend pied sur le glacier, et puis, on va aller faire des entraînements de cramponnage, apprendre à utiliser un piolet, à se déplacer sur un glacier. Et pour nous, c'est vraiment une ressource précieuse de pouvoir facilement accéder à ces longues terminales des glaciers qui descendent assez bas et qui sont en train de disparaître, tout simplement.
Carrément disparaître définitivement ?
Ben là, les glaciologues disent que d'ici 2050, l'avenir de la mer des glaces est incertain. C'est-à-dire là où on voit les deux glaciers qui se rejoignent et là où la mer des glaces démarre vraiment, il y aura sûrement des vestiges de glace sous la roche, sous les cailloux, mais tout ce qui est la mer des glaces proprement dite, la glace vive qu'on voit devant nous, risque de disparaître dans les prochaines décennies. Donc c'est vrai que pour toi, c'est la première fois que tu viens ici. Je pense que si tu étais venue en tant que gamine, tu serais peut-être un peu choquée, un peu scotchée de venir voir le changement qui s'est opéré ces dernières années. Même moi, je ne suis pas là depuis très longtemps, mais j'ai commencé à pratiquer la première vallée blanche, c'était en 2006. Et le changement, il est juste énorme. Depuis cette même 2010, il y a une vraie accélération.
Une accélération visible et palpable, puisque le retrait du glacier a entraîné de gros travaux.
Tout ça, c'est en nouveau.
La télécabine ? Non.
Ouais. Le câble de la télécabine a dû être rallongé pour accéder au glacier.
Ah ouais ? Ça, pourquoi avant, on n'avait pas besoin de télécabine pour descendre ?
Avant, il y avait une autre télécabine qu'ils avaient construite à la fin des années 80. Et comme je disais, le glacier a énormément fondu depuis. Et donc, en fait, on remontait plusieurs centaines d'escaliers. Enfin, on montait 150 mètres de dénivelé en escalier pour retrouver la télécabine. Et donc là, ils ont décidé d'en construire une nouvelle pour faciliter l'accès au glacier pour les touristes et pour les alpinistes aussi.
Parce que le glacier a tellement reculé qu'il faut descendre encore plus loin, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, chaque année, ils ajoutaient de plus en plus d'escaliers. Et une réponse un peu simpliste, c'est que pour les touristes, ça devenait trop physique, tout simplement, pour aller voir la grotte des glaces. C'était un effort trop important. Et aussi, pour les gens qui descendaient la Vallée Blanche à ski, ça, c'était quand même pas facile de remonter tous ces escaliers à la fin de la journée.
Avec les skis.
Avec les skis, lourds, un peu fatigués en fin de journée. Donc là, collectivement, ils ont décidé de faire une nouvelle. Donc là, on va marcher là où ils sont, les skieurs. Là. On monte dans ces pentes de glace et de cailloux. Et après, on voit qu'il y a pas mal de distance à faire jusqu'à la baie de Guerre.
Oui, en fait, une fois qu'on est en bas, on se rend compte qu'on n'est pas arrivé. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et pour cause, si à l'origine, l'école de glace pouvait se pratiquer sur une demi-journée, c'est désormais impossible. Il faut une journée entière, car l'accès au site est plus complexe, la zone de pratique plus éloignée et le terrain davantage recouvert de cailloux.
C'est bon.
Bon, bah super, bien joué. Nous voilà arrivés à la baie d'Hier. On voit ces jolies pentes où on peut cramponner.
Et donc ce canyon-là, avant, il était beaucoup moins loin. Là, on a marché environ 40 minutes. Avant, c'était quoi, 20 minutes ?
Ben avant, il y avait l'autre télécabine, donc c'était déjà un peu plus loin. Là, on a gagné un peu de temps avec la nouvelle. Mais ne serait-ce que c'est quand même une bonne heure à peu près pour y aller. Pour atteindre cette zone, la baie d'Hier, qui est plus intéressante, qui est plus intéressante pour cramponner. Et après, c'est surtout la forme du glacier qui change et qui a tendance à se lisser et à s'aplatir avec la fonte et le retrait du glacier. Et donc, il y a de moins en moins de lames, de crevasses, de reliefs pour jouer. Ce canyon, il est creusé par l'eau qui ruisselle sur le glacier l'été, et donc ça a créé cette zone avec pas mal de relief où on peut s'amuser, grimper et cramponner.
Et est-ce que cet endroit, il a changé au fil du temps ? Est-ce que c'est un endroit où le réchauffement climatique est visible ?
Et oui, les impacts du réchauffement sont extrêmement visibles ici. Moi, j'ai passé le probatoire pour devenir guide, pour entrer dans la formation en 2016. C'est l'examen d'entrée. Et en fait, on grimpait sur des lames de glace un peu surplombantes à ce niveau, là où on est, qui ont disparu, tout simplement. Ça n'existe plus 10 ans plus tard. En fait, cet endroit, ça évolue non seulement d'une année à l'autre, mais au cours de l'été, d'une semaine à l'autre. Quand on réfléchit au fait que la mer des glaces a perdu 17 mètres d'épaisseur en 2022, entre fin mai et fin septembre, en fait, on imagine bien que le relief du glacier, la forme du glacier, change en permanence. Donc pour nous, il faut qu'on mette à jour nos itinéraires par où on passe un peu tout le temps.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est quoi l'impact pour vous, globalement, pour les guides, ce réchauffement climatique ici, mais dans le reste de la vallée aussi ?
En fait, concrètement, le terrain évolue à une vitesse vraiment impressionnante. Donc nous, il faut qu'on connaisse très finement cette évolution, non seulement le terrain, mais aussi comment il change. Donc c'est extrêmement important d'y être souvent et aussi de bien communiquer entre nous.
pour alerter s'il y a un nouveau risque qui apparaît à tel endroit ou si un itinéraire ne passe plus et qu'il faut trouver une variante. Donc c'est en quelque sorte comme si notre bureau de travail est en train de fondre et qui nécessite une adaptation constante. On se pose pour pique-niquer ou au moins les sacs ou
tu... Carrément, carrément. Allons.
Là, il y a une belle table.
Parfait. Pique-nique avec vue.
D'ailleurs, pendant notre pause au creux de la mer de glace, les bruits de chute de pierre et de sérac, ces morceaux de glace qui se détachent, sont impressionnants.
Ouh là là, là ça tombe bien. C'est la moraine juste derrière nous.
Selon les études menées par le syndicat des guides, 40% des professionnels estiment prendre plus de risques à cause du réchauffement climatique.
Alors, les cailloux qui tombent en montagne, ça a toujours existé, c'est sûr. Après, quand un glacier est, entre guillemets, en bonne santé, en fait, il pousse sur le bord, sur ses moraines, et il a tendance à stabiliser ses versants, juste par sa présence. Et quand il fond et le niveau du glacier baisse, et ben, en fait, il n'y a plus cet appui sur les pentes. Et donc, c'est ça qui crée cet effet un peu de d'effondrement et d'érosion où ça tombe davantage quand le glacier recule. Ce phénomène, on appelle la décompression post-glaciaire et ça menace aussi les infrastructures, certaines infrastructures. Par exemple, s'il y a un refuge, une buvette qui a été construit en proximité du glacier sur une de ses moraines, et ben, quand il n'y a plus cet appui par le glacier, ça fragilise les constructions. Par exemple, c'est le cas du refuge de la Pilate dans les Écrins, qui a dû être fermé il y a 2-3 ans à cause d'une fracture, une fissure qui a apparu dans le mur en béton du refuge et qui était liée à la fonte du glacier et la déstabilisation du terrain.
Et alors, comment on trouve d'autres solutions en tant que guide? Quelles sont vos alternatives, en fait?
Là, typiquement, en fait, on parle de stratégie à court terme pour s'adapter. Typiquement, ça va être le lieu, le timing, la date et aussi l'activité. C'est nos trois leviers un peu à court terme pour s'adapter.
Donc, on évite certaines zones?
Par exemple, ici, à la mer de glace, admettons que d'ici 5-10 ans, la Bédière soit comblée de roches.
La Bédière, c'est l'endroit, l'espèce de canyon où on se trouve?
Tout à fait. À ce moment-là, on n'aura pas le choix. Il faudra qu'on change de secteur. Donc après, est-ce qu'il y aura d'autres coins pour faire des écoles de glace? La question se posera vraiment. Et c'est pour ça que je dis qu'on a ces stratégies à court terme, mais qui marchent jusqu'à une certaine limite. Et il y a un petit survol d'avion. Et après, ça ne marchera plus. Et c'est là où il faut qu'on réfléchisse aussi plus profondément au niveau de notre ADN, je dirais, par rapport à ce qu'on propose en montagne, comment on envisage de passer du temps en montagne, comment on fait rêver nos clients. En fait, toute notre approche de la montagne va changer. Tous nos produits standards qu'on a l'habitude de faire, de vendre, de proposer, ça va changer.
Changer la façon d'exercer son métier devient incontournable pour les professionnels de la montagne. Afin de mieux comprendre, j'ai échangé avec Ludovic Ravanel. Par téléphone, j'ai pu m'entretenir avec ce directeur de recherche au CNRS. Il travaille au sein du labo Editem pour environnement et dynamique des territoires de montagne. Il est spécialiste en géomorphologie et en glaciologie et aussi membre de la Compagnie des guides de Chamonix depuis 3 générations. À travers ses travaux de scientifique, il tente de mieux comprendre l'évolution des milieux de haute montagne face à la crise climatique. Selon lui, ce qui épargnera un peu le métier de guide, c'est sa polyvalence.
Les guides de haute montagne ont un panel assez large d'activités possibles. Ça va de la via ferrata au canyoning pour certains, en passant par la cascade de glace, le ski de randonnée, etc. Donc leur activité est très large. Ce qui les rend relativement peu dépendants encore à l'heure actuelle de la crise climatique, même si effectivement ils sont confrontés directement à ces problématiques-là. Le fait de pouvoir travailler toute l'année les rend moins dépendants de l'alpinisme traditionnel qu'on pratiquait au cœur de l'été. Si je prends l'exemple de mon papa, hein, l'essentiel, enfin le gros de la saison estivale, c'était juillet et août, et on sait aujourd'hui que les conditions sont nettement moins bonnes, très dégradées, voire même très mauvaises à cette époque-là. Donc, on va davantage pratiquer aujourd'hui au printemps, l'automne, voire même en plein hiver. Les hivers étant de moins en moins rigoureux, ça favorise la pratique. Et donc là, on a déjà une modalité d'adaptation, c'est le changement de saisonnalité. On a, à travers la thèse de doctorat de Jacques Mouret, identifié 33 modalités d'adaptation qu'on peut regrouper sous 5 grandes familles. C'est déjà ce changement de saisonnalité. C'est un changement des activités pratiquées. Et là, comme le guide a plein de cordes à son arc, il s'adapte facilement. Troisième grande stratégie d'adaptation, c'est plus d'attention et de réactivité apportée aux conditions. Il faut être réactif, il faut savoir en profiter. On a également un changement des lieux de pratique. Quand les courses ne sont plus bonnes dans les écrins, on peut venir dans le massif du Mont-Blanc ou en Suisse, dans le Valais, dans l'Oberland bernois par exemple. Et puis une cinquième modalité d'adaptation, une cinquième grande stratégie, c'est changement des techniques de progression. Et ça passe par davantage d'équipements dans la montagne. On pense par exemple aux accès aux refuges. On peut imaginer aussi mettre davantage d'équipements dans les secteurs qui sont devenus instables pour justement augmenter le niveau de sécurité. Ça peut être aussi moins de clients par guide. On a quand même un métier qui est très affecté par la crise climatique, mais on voit qu'à l'heure actuelle, le guide arrive encore à s'adapter, en espérant que ces modalités d'adaptation perdureront dans le futur avec la dégradation des conditions.
Des évolutions qui transforment complètement la pratique. Mais selon Ludovic Ravanel, c'est aussi face à cette crise que les guides ont réellement un rôle à jouer.
Donc effectivement, on a une montagne qui est somme toute plus dangereuse que par le passé. Mais ça en fait justement un élément important pour les guides, c'est que ça justifie encore plus que par le passé ce diplôme. Ce sont de véritables experts de tous ces processus. On a identifié 25 processus glaciologiques et géomorphologiques en montagne associés à la crise climatique qui rendent effectivement le métier plus compliqué, mais en même temps peut-être plus intéressant encore que par le passé, qui effectivement pour moi justifie pleinement le recours au guide de haute montagne de par sa connaissance des processus, de par son anticipation des phénomènes. Il a absolument sa place en montagne et c'est devenu également les guides des observateurs de ces évolutions sur lesquels on se base, puisque nous, en tant que scientifiques, on ne peut pas être en montagne en permanence. Donc, il nous faut des relais, il nous faut des observateurs, il nous faut des yeux pour repérer éventuellement des secteurs qui pourraient être à risque pour les alpinistes, voire même pour les vallées dans le futur. Donc, les guides ont une place effectivement très, très importante par rapport à la gestion de l'évolution des milieux d'haute montagne face à la crise climatique.
Face à l'ampleur de cette crise climatique, la compagnie a décidé depuis plusieurs années d'agir, notamment en calculant son bilan carbone.
Si on fait un calcul, c'est 99% de nos émissions qui sont liées en fait, au transport de nos clients entre leur lieu de résidence et Chamonix.
Daniel Rodriguez, directeur de la compagnie des guides de Chamonix et accompagnateur.
Et nous, nos actions ici dans la vallée de Chamonix, pour nos activités, ça représente en fait moins de 1% des émissions carbone de la compagnie des guides de Chamonix.
Ces chiffres, Daniel Rodriguez les tient du dernier bilan carbone de la compagnie, dressé annuellement depuis 2020. Un bilan qui sert notamment ensuite à mener des actions concrètes.
Du coup, ces chiffres, ça donne le tournis, puisqu'on se dit qu'on a des leviers d'action que sur 1% des émissions carbone. Mais néanmoins, on a quand même décidé de mettre en place un certain nombre de choses. La première chose qu'on a mis en place, c'est un calculateur carbone sur notre site internet. L'idée de ça, c'était de pouvoir faire de la sensibilisation et de porter à connaissance à nos clients le fait que quand ils viennent à Chamonix, leurs plus grandes émissions de gaz à effet de serre sont liées à leur transport. Et à ce titre, on va après les inciter à faire des séjours plus longs, à rester plus longtemps pour atténuer ces émissions. Et on va leur proposer également des produits qui sont moins émetteurs, puisque chacun de nos produits sont calculés au niveau carbone. Donc on permet à nos clients d'aller choisir les produits qui sont les moins émetteurs possibles. C'est assez facile. D'un point de vue général, quand on fait de l'alpinisme, c'est assez peu émetteur, en fait, parce qu'on utilise les remontées mécaniques qui utilisent l'énergie électrique pour fonctionner. Donc, c'est peu émetteur. Et puis après, sur l'activité en elle-même en haute montagne, c'est peu émetteur également. Et les refuges sont également assez peu émetteurs, même si on utilise l'hélicoptère pour pouvoir emmener la nourriture et les vivres là-haut. Mais en fait, c'est assez peu émetteur, les refuges. Donc les activités, on va dire, alpinisme, sont assez vertes, si on peut dire. Ça devient plus compliqué quand on fait des activités qui nécessitent du transport de bagages, du transport de personnes, etc. Et donc pour ça, on a limité notre rayon d'action autour de Chamonix. C'est-à-dire qu'on ne va plus à l'autre bout des Alpes maintenant pour faire des activités, pour réduire justement nos émissions carbone. On a réduit du coup notre empreinte carbone grâce à ça. Et puis, on va utiliser beaucoup plus les transports en commun. On va essayer d'aller vers une alimentation qui est moins carnée dans nos produits. Et voilà, plein de petites actions comme ça qui font en sorte que depuis 2019, on a réduit en fait de 30% nos émissions directes. En termes de CO2.
C'était devenu une urgence parce que c'est pas facile en tant que compagnie des guides de se regarder dans un miroir et dire on a besoin des touristes et on a besoin qu'ils viennent et en même temps on va leur demander de venir dans de meilleures conditions.
Alors ouais, c'est devenu une urgence tout simplement parce que nos scientifiques nous disent que chaque kilo de CO2 compte. Et à ce titre, c'était vraiment important pour nous de faire notre part. Alors on sait qu'on n'est pas en train de révolutionner le monde et qu'on ne veut surtout pas se porter en tant que donneur de leçons, mais on a envie de faire notre part, c'est certain. Et à ce titre, on a conscience qu'il faut qu'on fasse notre part et que cette part-là, elle passe par des contraintes qui sont liées à ce qu'on va proposer à nos clients et puis des contraintes qu'on va nous-mêmes imposer à nos clients. Et je pense que c'est une goutte d'eau dans le tourisme mondial, mais je pense que cette goutte d'eau est nécessaire quand même pour pouvoir, en effet, parler ouvertement et sans aucune honte de ces questions-là à nos clients et puis aux personnes qui nous suivent.
Car c'est un enjeu de taille, préserver la montagne, sa faune, sa flore est absolument nécessaire pour pouvoir continuer d'y évoluer et d'y vivre avec vous des expériences hors du commun. Je suis Lola Fourmi et vous venez d'écouter un épisode du podcast Suivez le guide, proposé par la Compagnie des guides de Chamonix, réalisé par César Defort et moi-même, produit par Natif, sous la direction éditoriale de Didier Thiberguin et Daniel Rodriguez. Le montage sonore est réalisé par Damien Talavera.